Je vous rappelle l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er, parce que il est important. Je voudrais donc qu'on revienne sur ce texte pour nos bien-aimés, afin que tout le monde puisse goûter de ce savoureux repas. C'est Jésus lui-même qui nous l'a concocté, hein, quand il a dit dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, il a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà, il faut croire en Dieu et croire en Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il précise le Seigneur, hein, parce que, je ne sais pas, les gens, à quoi ils... Comment vous voyez le ciel, hein, un petit nuage sur lequel on flotte, c'est pas ça du tout, hein. Il nous prépare une place et il dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Amen. Et je vous prendrai avec moi. Vous savez, il suffirait qu'on s'arrête là et ça suffit, hein. Parce que déjà, rien que ça, c'est suffisant pour nous de dire, bon ben j'attends, Jésus a dit qu'il va revenir et qu'il va me prendre et qu'il m'a préparé une place. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est sûr, c'est certain. Il y a des choses qui nous dépassent, bien sûr. C'est surnaturel, c'est extraordinaire. Ça dépasse tout ce que nous avons pu concevoir ici-bas ou que l'on pourrait imaginer. Mais pourtant, c'est vrai. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Ça le dépassait, là, il n'avait pas compris. N'oublie pas, nous maintenant, on sait pas mal de choses. Mais à ce moment-là, on ne savait pas grand-chose. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et puis 1 Corinthiens 15, 50, je me plais de lire aussi ce texte fabuleux. Il nous annonce des choses quand même étonnantes. Est-ce que vous auriez pu imaginer des choses pareilles, hein? Eh bien, le Seigneur Jésus les a préparés pour ceux qu'il aime, comme dirait l'apôtre. 1 Corinthiens 15, 50, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire tel que nous sommes là, chair et le sang, ayant goûté le péché, on ne peut hériter le royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. On ne peut pas rentrer avec un corps comme ça qui va vieillir, qui va... Donc il faut qu'il y ait un changement. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Voilà, c'est bon pour cette lecture. Et puis 1 Thessaloniciens, qui est le grand chapitre qui traite de l'enlèvement, justement, 1 Thessaloniciens 4.13, et là, l'apôtre Paul s'adressant à ces chrétiens de Thessalonique, ils étaient perplexes concernant un certain sujet. Ce sujet, c'est qu'ils pensaient, tel que Paul le leur avait enseigné, qu'ils allaient être enlevés, parce que de cela, ils le savaient. Mais ils se demandaient ce qu'allaient devenir ceux qui étaient morts en Christ. Parce qu'ils se disaient, ben, nous, on est vivants, là, on va être enlevés quand Jésus va revenir. Donc, vous voyez qu'ils attendaient ça, hein, à leur époque, au moment où ils vivaient. Mais il disait, mais on a des bien-aimés qui sont décédés, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors ils ont écrit à l'apôtre Paul pour lui poser la question. Et c'est pour ça qu'il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Une expression qui veut dire ceux qui sont morts. Hein, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous voyez, le chrétien, lui, il a une espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Il y en aura qui seront vivants à ce moment-là. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, À un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, il est question dans ces textes de Jésus qui revient et qui va nous prendre avec lui, comme il le dira, dans la maison du Père. Et ça va être extraordinaire, vous savez. Vous allez marcher dans une cité, dans les rues sont pavées d'or. J'ai lu le témoignage d'un pasteur qui racontait que quand il était petit, il disait à sa maman, « Maman, si je meurs, tu m'enterreras avec une pelle et une pioche. » Alors la maman, perplexe, lui dit, « Qu'est-ce que tu veux en faire ?» Parce qu'il pensait à ces rues pavées d'or de la Jérusalem céleste. Il se voyait en train de creuser, récupérer de l'or. C'était quand même un peu humoristique pour ce petit garçon. Nous vivons quand même des temps, je ne sais pas si on peut les cataloguer de sans précédent, parce que je crois que tout le monde se demande ce qui va se passer en voyant la tournure des événements. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu mondial. Un petit problème ici, et c'est la planète entière qui est au courant. Et s'il y a un problème, un virus Ebola quelque part, le monde entier commence à s'alarmer et à se demander si ça ne va pas arriver chez nous. Que nous réserve l'avenir? Vous savez qu'on dépense beaucoup en France en particulier à interroger les voyants, les diseuses de bonne aventure, les cartomanciennes, etc. Et Jésus va-t-il revenir? Les gens s'en préoccupent, ils se préoccupent de leur avenir, etc. Et quand on leur cite les prophéties, alors là, on vous entendra là-dessus une autre fois. Et pourtant, c'est le seul livre où il y a les prophéties absolues qui se réaliseront à 100%. Car les prophéties bibliques qui devaient s'accomplir se sont accomplies à 100%. Pas 99, pas 50, 100%. Eh bien, les prophéties qui doivent s'accomplir dans les temps de la fin que Dieu nous a révélés s'accompliront exactement de la même manière, c'est-à-dire 100%. Quand Jésus devait venir sur cette terre et naître d'une vierge, naître à Bethléem, etc., eh bien, ça s'est accompli exactement à 100%, tel que c'était écrit. Eh bien, mes frères et sœurs, il va se produire la même chose. Jésus va revenir exactement comme il l'a dit. Il va nous prendre avec lui dans la gloire. Ça va être une révolution. Ça va être, la terre va se retrouver dans une situation, les dirigeants de ce monde, comme à l'habitude, vont vous dire qu'ils ont la situation en main, alors qu'ils n'ont rien du tout en main. Des milliers de gens, des millions de gens auront disparu de la planète. Beaucoup se rendent compte, donc, si nous approchons de la fin. Je sais pas, il y a quelque temps de cela, il y a eu le fameux film 2012, vous vous rappelez? Le film 2012, vous n'avez peut-être pas vu, vous ne regardez pas le cinéma, mais je l'ai regardé parce que ça m'intéresse de voir comment ils imaginent un petit peu les temps de la fin, voyez-vous, 2012. C'était le moment où on disait en 2012, les Aztèques là, ou les Incas, ils ont prévu que selon le calendrier, ça allait être la fin de la fin. Et j'ai fait paraître, je ne sais pas si vous l'avez lu à l'époque, avant cette date, j'avais fait paraître dans le Pentecôte, je ne sais pas si vous lisez le Pentecôte, j'avais fait paraître un article que j'avais intitulé « Avez-vous peur de 2012 ?» Je ne sais pas si quelques-uns vous l'avez lu. Avez-vous peur de 2012 ? Où je refutais justement à l'avance que ces histoires de calendrier, etc., tout cela, c'était rien du tout, que ça n'avait rien à voir avec ce qu'annonce la parole de Dieu. Et on est en 2014, enfin je crois, on est toujours vivant, oui. Pensez-moi pour voir, oui, on est toujours là. Voyez-vous que les hommes peuvent dire des tas de choses et les gens se sont préoccupés. On a commencé, vous auriez vu sur Internet, il y avait le chronomètre et tout, etc. On allait arriver. Il n'y a rien eu du tout. Dans nos églises, On a entendu parler normalement de l'enlèvement. Si une église n'en a pas entendu parler, ça doit être une drôle d'église. Mais enfin, dans nos milieux, en tout cas, nous parlons de l'enlèvement. Mais c'est vrai que certains sont un petit peu dans la confusion. Et si ce matin, nous avons eu l'occasion de traiter un petit peu ce sujet, cet après-midi, je voudrais revenir un petit peu. Vous vous souvenez donc que lorsque Paul dit « nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées », ce verbe « enlever », n'est-ce pas, c'est la traduction du mot grec « arpazo », vous vous en souvenez ? C'est du grec, voilà, c'est du grec. Et qui signifie « s'emparer », donc Jésus va s'emparer des croyants, alléluia, on a l'impression d'un aigle là qui arrive là avec ses serres et qui vous accroche, mon ami, et personne ne pourra vous empêcher de monter. Monte plus haut, comme dira la parole de Dieu, et ça signifie s'emparer, enlever, ravir, arracher, enlever de force, et il se trouve 13 fois dans le Nouveau Testament. Vous avez Matthieu 11:12. Matthieu 11:12, c'est les violents, il parle du royaume des cieux, qu'est-ce qu'il dit ? Ce sont les violents qui s'en empare, arpazo, vous voyez, c'est ce verbe. Et puis, je vous rappelle Jean 6:15, quand il est parlé de Jésus, il nous a dit que la foule allait venir l'enlever, enlever Jésus pour le faire roi. Je ne sais pas s'il voulait monter jusqu'à Rome, mettre César par terre et mettre Jésus sur le trône de l'Empire romain. J'en sais rien, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire, mais enfin, ils venaient de participer à la multiplication des pains, si vous vous rappelez du contexte, alors ils allaient le faire roi. C'était lui, c'était le Messie, c'est pas possible, ça y est, le royaume messianique est arrivé. Et nous, la Bible nous dit que Jésus, donc, s'est retiré et il est monté sur la montagne pour prier. Dans Jean 10:28, en parlant de ses brebis, il dira « Personne ne les ravira de ma main, ni de la main de mon Père. » Et puis 2 Corinthiens 11:3, lorsque Paul parle de ce moment extraordinaire où nous dit-il qu'il a été ravi, il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Et ce verbe ravi, ravir, c'est le verbe arpazo. Paul a été ravi jusqu'au troisième ciel. Au verset 4, il dira « enlevé dans le paradis ». Paul a fait des expériences extraordinaires. Et il savait de quoi il parlait quand il parlait. Apocalypse chapitre 12, verset 5, il est parlé de l'enfant mâle que la femme enveloppée du soleil, de la lune et des étoiles a mis au monde. Et il nous a dit que son enfant fut enlevé, arraché, n'est-ce pas, et ravi jusqu'au trône de Dieu. Donc, les textes principaux qui ont des détails, bien sûr, sur ce sujet, sont ceux que nous venons de lire en introduction, l'évangile de Jean, 1 Thessaloniciens, et puis l'épître aux Corinthiens. Et en particulier, c'est le dernier que nous avons lu, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, parce que c'est celui où nous avons la description que Paul fait sur l'enlèvement. Les autres en parlent aussi, puisque Jésus dit je viendrai, je vous prendrai. Mais un Thessalonicien, il a quand même des expressions, et je voudrais donc y revenir. Je ne sais pas où vous en êtes concernant l'idée des prophéties, l'étude des prophéties, parce que certains aiment bien les prophéties, peut-être même un peu trop, il y en a, c'est devenu leur dada, il n'y a plus que ça qui compte, il n'y a pas que ça, hein. Il y a l'œuvre de Dieu quand même à accomplir sur la terre. Mais en tout cas, il y en a d'autres qui vont dire qu'ils n'ont pas besoin de connaître les prophéties. Ah ben ça peut arriver. Mais Paul dira, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et s'il dit qu'il ne faut pas être dans l'ignorance, d'ailleurs je me demande pourquoi Dieu a mis tout ça dans sa parole. Un tiers de sa parole, c'est de la prophétie. Si Dieu a mis tout ça dans sa parole, ce n'est pas pour que nous, on puisse dire, moi je néglige ce sujet, il ne m'intéresse pas. Je crois que les sujets qui traitent des temps de la fin sont très importants. Ça permet, n'est-ce pas, de donner à notre âme une impulsion, parce qu'on se dit, mon pauvre, il y a intérêt à te tenir comme il faut, éveillé, et à marcher fidèlement dans les voies du Seigneur, et à t'écarter de tout ce qui risque, n'est-ce pas, de t'empêcher d'être enlevé. Amen. Oui, donc l'enlèvement, traiter les sujets des prophéties, c'est quand même très très sérieux. Sans doute, je crois que quelques chrétiens étaient donc décédés à l'époque de l'apôtre Paul, et les Thessaloniciens se demandaient que deviennent à l'enlèvement ceux qui sont décédés. Nous, les vivants, on va être enlevés, mais peut-être il y avait déjà quelques bien-aimés qui étaient décédés. Eh bien, l'apôtre Paul se demandait ce qu'ils allaient devenir. « Voici, en effet, dit Paul, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » C'était le Seigneur qui l'avait enseigné. Ce n'est donc pas une idée qui aurait germé dans l'imagination de l'apôtre. Hein. Ce qu'il dit ici, ça vient du Seigneur. C'est d'après la parole du Seigneur. Le Seigneur lui-même, nous dit-il au verset 16, je reviens à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, hein, il dit au verset 16 qu'il va descendre lui-même du ciel. Ce qui signifie, je vous relis le passage, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, on va revenir sur tes détails, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le Seigneur lui-même, il va se déplacer. Ce sujet est grave, il est important. Il aurait pu envoyer des anges, n'est-ce pas? Mais là, il n'envoie pas des anges, il nous a dit qu'il va venir lui-même. Ce n'est pas un ange qui va descendre, quoi qu'il y en a qui vont descendre avec lui, l'enlèvement aura lieu à l'apparition personnelle de Jésus dans les airs. Amen. Et c'est ce qui est écrit par ailleurs, des versets que nous avons lus ce matin. Nous attendons du ciel le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons le Seigneur lui-même. Il ne va pas venir homme tel qu'il est, tel que vous l'avez peut-être imaginé quand il était sur terre, parce que là, il va être plein de gloire. Alléluia. L'apparition du Seigneur va être une apparition glorieuse. Il y a trois choses en particulier qui accompagneront la venue de Jésus. Et je vous ai dit, pour ceux qui étaient là, que j'essaierai de rentrer un peu dans les détails. Alors, on va essayer de voir cela. Parmi ces choses, il y a un cri de commandement. Je m'explique, c'est ainsi que certains traduisent cette parole à un signal donné. C'est écrit comme ça dans la version que nous avons lue. Le Seigneur Jésus a un signal donné, mais on peut traduire, d'après le texte original, n'est-ce pas, un cri de commandement. Parce que le texte grec, c'est « kaliusma », et « kaliusma » signifie « un ordre ». Il signifie un cri stimulant. Il signifie un ordre d'un général. Dernièrement, j'étais avec un général au centre de vacances de l'Égual. J'ai bien aimé le rencontrer parce que ça fait des années donc, que j'ai connu. On était jeunes tous les deux. On était dans l'église de Paris. Et un jour, on a fait un appel pour un camp de travail dans le Tarn, là-bas, du côté du Mont-Aigual. Et les deux qui ont répondu, de Paris, parce qu'il y en a beaucoup qui venaient d'Évreux, dans l'heure, et les deux qui sont venus de Paris, ben, c'était ce jeune, qui avait, je crois, un an ou deux de plus que moi, et moi-même, donc on était tous les deux, et nous sommes allés. Et le seul qui, à part le pasteur, avait le permis poids lourd, c'était moi. Alors j'étais celui qui allait conduire le camion portant les baraques qui ont servi pendant des années à faire le centre de vacances de l'Égual, pour ceux qui connaissent. Avec M. Lafayette, il y en a qui doivent connaître le centre de vacances de l'Égual. Et ce jeune m'a accompagné, justement, comme on était tous les deux de Paris, il m'accompagnait pour, évidemment, décharger les plaques, parce que les uns démontaient des baraques de harkis, et nous, on transportait avec le camion, et après, il fallait vider le camion, puis il fallait être aidé, quand même, pour faire le voyage tout seul avec un camion, surtout dans les gorges du Tarn. Vous avez déjà voyagé dans les gorges du Tarn avec un camion? Et alors, chemin faisant, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Parce que même si on était dans la même église, moi, je ne connaissais pas tellement. Et il me dit, je suis à Polytechnique. Ah, Polytechnique. Moi, j'avais fait le collège technique et je me disais, ça doit être pareil. Et oui, j'avais fait le collège technique. Et je ne suis jamais arrivé à avoir le diplôme à cette époque-là. C'est vous dire, avec les événements d'Algérie. Et quelques années après, je l'ai rencontré ici même, dans votre église. Quand on m'a dit qu'il était là, ah, j'ai voulu vite le rencontrer. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il me dit, je suis général. Ah bon, oui, voyez-vous, ce n'était pas la même technique quand même. Hein. Oui, c'est vous dire la destinée des uns et des autres. Hein. On était jeunes tous les deux à ce moment-là. Moi, j'allais entrer dans le ministère et lui, il était général. On n'a pas tous le même cheminement, mais ça dépend du Seigneur. Alors ici, il est parlé d'un cri, je dis ça parce qu'il est parlé, ça veut dire aussi un ordre d'un général. Quand un général donne un ordre, mon ami, dans la caserne, vous êtes là sur la place du rapport, etc. Et mon ami, quand il dit garde-vous, vous aviez intérêt à vous mettre au garde-vous, parce qu'alors on vous surveillait. Hein. C'était terrible. Et là, il nous est dit donc que ça va être un ordre que Jésus va donner. Il va donner un cri de commandement. Le Seigneur va donner un ordre en poussant ce cri. En poussant ce cri. Or, j'ai lu par exemple dans Jean, chapitre 5, verset 28, il est dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. » Il est parlé de la voix du Fils de Dieu, n'est-ce pas ?« Les morts entendront sa voix et en sortiront. » Vous entendez ? Ils entendront sa voix. Voilà le pouvoir de notre Seigneur. Le pouvoir du Christ, le pouvoir du Seigneur Jésus, ils entendront, ceux qui sont dans les sépulcres. Vous dites c'est de la poussière, ils étaient, n'est-ce pas, devenus poussière, mangés même par les végétaux. Eh bien, ils entendront sa voix et en sortiront. Dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, et au verset 43, Jésus se trouve devant la tombe de Lazare. Oh, qui n'a pas entendu parler de cela, hein ? Il est devant la tombe de Lazare. Et il va dire, roulez la pierre, roulez la pierre. La sœur s'affole, elle dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Voyez-vous, elle craignait, elle disait, qu'est-ce qu'il veut faire le Seigneur? Et Jésus va lui dire, n'est-ce pas, il va lui parler de la résurrection. Et puis il va se tourner vers Lazare qui est là, hein, derrière cette grosse pierre. Et la Bible nous dit, il cria, vous vous souvenez de la suite? Il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, que le mort sortit. Ça, c'est kaliousma, c'est le cri de commandement, vous voyez. Quand Jésus parle, le mort revit et il sort. On a souvent fait remarquer qu'il a dit Lazare, parce qu'autrement, c'était tous les morts qui allaient sortir. Ils allaient entendre la voix du Fils de Dieu et ils allaient sortir des sépulcres. Alors, il a crié Lazare. Alors, il n'y a que Lazare qui est sorti. Je n'ai pas compris très bien, vous savez, parce que l'image qu'il nous est donnée, il nous a dit qu'il est sorti les pieds et les mains, il était lié de bandes. Alors je me suis dit, mais comment il a fait? Alors il est sorti comme ça, en flottant dans les airs. Je n'ai pas très bien compris. Libre à vous, vous avez plus d'imagination que moi peut-être. Il sort, il obéit, n'importe quoi obéit à la voix de Dieu. Il peut dire un mot, il n'y a plus de chaise cet après-midi, vous êtes assis par terre. Voyez-vous ? Heureusement qu'il ne va pas le faire, le Seigneur. Il a pitié de vous. Je pense que là, nous avons le premier cri poussé par le Seigneur. Il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sort. Ensuite, j'ai lu ce passage aussi dans Matthieu 27, verset 50. Il est sur la croix, le Seigneur Jésus. Il est sur la croix, il va mourir. Et la Bible nous dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Il a poussé un grand cri. Et la Bible nous dit, un petit peu, quelques mots plus loin, les sépulcres s'ouvrirent. C'est un peu, hein, c'est étrange cette parole. Les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. On les oublie, ces morts-là, ils sont ressuscités. Quelques-uns, c'était trié, je ne sais pas. Hein. C'est à la croix que le Seigneur Jésus a poussé pour la deuxième fois un grand cri. Il nous a dit, il y a des morts qui sont sortis. Vous avez compris ? Il va venir avec un cri de commandement. voyez-vous. Et ce cri de commandement, ce sera pour tous ceux qui sont morts en Christ, pour tous ceux qui sont rachetés, pour tous ceux qui sont sauvés. Et alors, je viens maintenant à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, où il nous est dit, le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, je traduis littéralement donc la phrase, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le même cri que nous avons vu avec Lazare, que nous avons vu avec au moment où Jésus meurt sur la croix, eh bien, la Bible nous dit que ce cri, il va le pousser quand il va revenir pour prendre avec lui l'Église, les racheter. Amen. Et pas les racheter seulement de 2014. Les autres aussi. Alléluia. Donc, la version Darby traduit, n'est-ce pas, un cri du Seigneur et les morts en Christ ressusciteront. Je pense donc que nous avons là la première des choses. Je vous ai promis trois choses lors de la venue de Jésus. Ça, c'est la première. La deuxième, il est dit la voix d'un archange. Il y aura en même temps la voix d'un archange. Donc, il y a le Seigneur Jésus et puis il y a la voix d'un archange. Je suppose qu'il y a l'archange, peut-être c'est Michel ou je ne sais pas lequel. En tout cas, il nous est dit la voix d'un archange. Certains pensent qu'il s'agirait de Michel. Et c'est possible parce que n'oubliez pas que quand l'Église sera enlevée, l'archange Michel, qui s'appelle Michaël dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, eh bien, il va se lever pour Israël. Souvenez-vous de Daniel chapitre 12, verset 1er. En ce temps-là se lèvera Michaël, le défenseur des enfants de ton peuple. Israël ayant été mis à l'écart pendant un temps, Michaël aussi, donc il est resté de côté, il fait son travail bien sûr, mais dans les temps de la fin, quand Israël va reprendre sa place dans le plan de Dieu, Michaël sera de retour. C'est pour ça que dans mon livre, il y a un titre que j'ai donné à un chapitre, Michaël est de retour. Vous vous souvenez de la chanson ? Michaël est de retour. Alléluia. J'étais païen quand j'entendais ça. Hein. Enfin, voyez-vous, mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu nous dit que pendant tout le temps de l'Église, Israël avait été mis de côté. Et maintenant, à ce moment-là, au moment où l'Église va être enlevée, l'action de Dieu va se tourner envers Israël. Et c'est sans doute pour ça, peut-être, c'est pas spécifié, que Michel apparaît au moment où l'Église est enlevée. Il en est parlé d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, pendant la tribulation, il est le défenseur du peuple d'Israël. Vous pouvez lire Daniel chapitre 12 et vous pouvez lire, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre 12 aussi. C'est toujours le même chapitre, chapitre 12. Il se peut que cet archange dont il est parlé lance un appel aux autres anges. L'enlèvement de l'Église, ça va être un événement fabuleux pour le ciel. Le Fils de Dieu lui-même a versé son sang pour les avoir. Les anges plongent leur regard dans cet événement. Et peut-être que beaucoup vont accompagner le Seigneur dans ce moment. Une grande réunion dans les airs. Les croyants qui vont venir rejoindre Jésus dans les airs. Les anges qui sont là et qui vont accompagner cette foule nombreuse. Il se peut que ce soit un cri de victoire. Un cri de réjouissance que nous allons avoir. Grande victoire pour tous les croyants et pour tous les anges sur les puissances du mal. Amen. C'est possible que ce soit ça, la voix d'un archange, puisqu'il est dit la voix d'un archange. Troisièmement, au son de la trompette de Dieu. C'est la troisième chose. Au son de la trompette de Dieu, les trompettes, il en est souvent fait mention dans la Bible. La trompette était un signal de rassemblement ou bien un signal pour se mettre en marche. Et bien sûr, ici, il peut y avoir un peu de confusion concernant cette fameuse trompette, parce que cette trompette, elle va signaler que c'est le moment du rassemblement avec le Seigneur dans les airs, puisqu'il est dit à la dernière trompette, dans 1 Corinthiens, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, il s'agit du même événement, il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Alors certains font la confusion. ils font la confusion entre cette dernière trompette et la septième trompette qu'il y a dans Apocalypse. Voyez-vous ? Dans Apocalypse, chapitre 11, verset 15, il est parlé de la septième trompette. Alors, comme après, il n'y en a plus, hein, et la première trompette qui souffle, il se passe tel événement, la deuxième trompette qui souffle, il se passe tel événement, et puis nous arrivons à la septième trompette. Hein, mais, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire, cette septième trompette ? Vous pouvez, à votre guise, reprendre chez vous, n'est-ce pas, le livre de l'Apocalypse, et voir le chapitre 11, à partir du verset 15, où il nous est dit « Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut, dans la Bible, dans l'Écriture, il est dit, dans le ciel de fortes voix. » J'ai beau lire et relire ce texte, et je ne vois pas comment on a pu placer ici l'enlèvement de l'Église. Parce que tout simplement, mes frères et sœurs, c'est que les trompettes ne signalent pas toujours la même chose. Ce n'est pas parce que nous lisons tel événement, tel sujet dans la Bible, hein, que ça veut dire la même chose, mes frères et sœurs. Il faut donc bien regarder le contexte. Une trompette, par exemple, c'est pour enlever l'Église, pour être avec le Seigneur. Voyez-vous ? L'autre signale le jugement d'un monde impie. Si vous reprenez le livre de l'Apocalypse, vous verrez que c'est la colère de Dieu qui tombe sur le monde. Et chaque trompette le signale, même la septième. Et une des trompettes, c'est la trompette de la grâce de Dieu, manifestée envers tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, tandis que l'autre, c'est le jugement de Dieu. Nous ne sommes pas du tout dans le même contexte. Pas du tout. Un, c'est le dernier instant de l'Église sur terre, c'est la période de l'Église. L'autre signale un point culminant dans les jugements de la tribulation. Voyez-vous ? Pour d'autres, s'appuyant sur le texte de Matthieu 24, 31, où il nous est dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, ils rassembleront ses élus des quatre vents. » Mais à ce moment-là, il s'agit de la venue de Jésus sur terre. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas ? Et cette trompette-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de trompettes dans la Bible, hein ? Et bien sûr, ça c'est plutôt la fin de la tribulation, c'est pas du tout la même que 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. La seule similitude entre ces trompettes, c'est que dans les deux cas, c'est pour le rassemblement du peuple de Dieu, mais c'est pas du tout la même chose, parce que quand Jésus va revenir, il va y avoir un rassemblement aussi, mes frères et sœurs, sur la terre, il y a des gens qui se sont tournés vers le Seigneur, et bien sûr, avec la tribulation que vous pouvez imaginer. Dans un cas, il s'agit de l'Église, dans l'autre, ce sont ces croyants juifs de la tribulation, beaucoup vont se tourner vers le Seigneur, et vont se convertir donc. Hein. Je ne voudrais pas rentrer davantage dans les détails, mais en tout cas, nous avons plusieurs trompettes dans la parole de Dieu, et il ne s'agit pas toujours de la même chose. La dernière trompette de l'enlèvement, c'est la dernière trompette qui signale la fin de l'Église sur terre. On s'est posé la question, est-ce que ceux qui vont rester... Parce qu'il y a ceux qui vont rester, tout le monde ne va pas être enlevé, ce sont les croyants qui sont en Christ qui vont être enlevés. Est-ce que ceux qui vont rester verront ou entendront quelque chose ? C'est un point de vue curieux, n'est-ce pas ? Oui. Il va y avoir, nous est-il dit, un cri de commandement ? C'est un cri quand même, un cri de commandement. Il va y avoir la voix d'un archange, sera-t-elle suffisamment puissante ? J'imagine, oui. Alors, ceux qui seront restés sur terre, est-ce qu'ils entendront ou est-ce qu'ils verront quelque chose ? On ne peut pas être, bien sûr, sûr dans notre réponse, mais on a des exemples dans la Bible que je vais vous livrer. Il est possible, par exemple, que, comme les exemples de la Bible, les incrédules entendent quelque chose. C'est possible. Ce n'est pas précisé, mais ils ne verront pas, forcément. Par exemple, nous avons Paul, ou Saul de Tarse, si vous préférez, quand il a été arrêté par le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas. On connaît ce texte rapporté dans les Actes des Apôtres en particulier. Il nous est dit dans Actes 9, verset 7, « Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » Ça, c'est Saul de Tarse, quand il est tombé par terre, il nous est dit, donc, Saul nous raconte qu'il a entendu une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes ?» Et il y avait donc des gens qui l'accompagnaient, et il nous est dit, ceux qui l'accompagnaient sont restés là stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Va-t-il se passer la même chose ? Les incrédules vont-ils entendre un cri de commandement sans savoir trop ce que ça veut dire? Mais c'est possible qu'il y ait un bruit, j'en sais rien. Nous avons un autre exemple quand la voix de Dieu a résonné comme un tonnerre en s'adressant à Jésus. Jean chapitre 12, verset 28. Et une voix vint du ciel. Vous savez, c'est quand Jésus a dit, et maintenant, que dirais-je, Père, hein, glorifie ton nom. Et c'est là que la voix du ciel dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Une voix s'est faite entendre. La foule était là, ils ont entendu. Et alors il nous a dit, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Ça paraissait tellement extraordinaire. Imaginez maintenant une voix comme ça. Là. Certains diraient, mais non, ce n'était pas un camion qui passait. Hein. Ouais. Eh bien, mes frères et sœurs, d'autres disaient, un ange lui a parlé. Un ange. Ils ont entendu quelque chose. Ils ont entendu quelque chose. Il est arrivé la même chose avec le prophète Daniel. Daniel a fait une expérience assez étonnante. Au chapitre 10 de son livre de Daniel, verset 7, quand il a eu cette glorieuse vision, il dit « Moi, Daniel, je vis seul la vision. » Ce n'est pas donné à tous, voyez-vous. « Je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. » Il a été le seul à voir la vision. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Il y avait une telle présence de Dieu qu'ils ont ressenti forcément quelque chose. Ils n'ont pas pu voir, leurs yeux étaient voilés sur cette gloire de Dieu. Mais ils ont été saisis avec quelque chose. J'ai l'impression que leurs atomes se sont mis à bouillir dans la présence du Seigneur. Moi, j'imagine des choses comme ça. Parce que n'oubliez pas que notre Dieu, c'est lui qui soutient tout par sa parole. Nos atomes sont soutenus par la puissance de Dieu. Et quand il est là, vos atomes, eh bien, ne tiennent plus. Comme l'apôtre Jean qui est tombé comme mort au pied du Seigneur Jésus. Il y a des gens qui se glorifient et qui disent, moi, si je voyais le Seigneur, je lui dirais. Tu lui diras quoi? L'apôtre Jean qui était un des plus grands saints que la création ait connu, il est tombé raide mort, ou du moins comme mort. Et il a fallu que le Seigneur Jésus le touche et le relève, le fortifie pour qu'il puisse se relever. Et il en a été de même de Daniel, qui est tombé lui aussi, il ne pouvait plus se relever. Les jointures de ses genoux ne tenaient plus, mes frères et sœurs. Alors ne vous glorifiez pas en disant, moi, si je voyais le Seigneur, je lui dirais. Une fois, j'ai senti la présence tellement que j'ai eu peur. J'ai dit, ça y est, qu'est-ce qui va se passer si jamais il m'apparaît? Ouais, c'est vrai. Faire très attention à nos paroles et à nos propos. Alors, il se peut qu'à l'enlèvement, il se produise la même chose. Il se peut. Les incrédules qui resteront, peut-être entendraient-ils une voix, je n'en sais rien. La voix, les sons, mais ne verront rien. N'oubliez pas, néanmoins, qu'en un instant, vous avez des millions de gens qui vont soudainement disparaître. La dame, elle est là au guichet, elle vient de remplir son caddie, elle sort sa carte bancaire, elle va payer, et puis tout à coup, la caissière dit, madame, où est passée la dame? Il n'y avait pas une dame là? Oui, il y avait une dame, mais il n'y a plus de dame. Soudainement, elle a disparu. Comment ça va se passer l'enlèvement? On a fait tout un tas de cinéma là-dessus, hein? Hein, certains ont dit, et le pilote de l'avion qui est converti, et le machiniste avec le TGV, hein, et celui qui est avec sa voiture et qui est en train de chanter un beau cantique, et tout à coup, paf, c'est l'enlèvement. Que devient la voiture hein? Alors il y en a qui ont dit, oui, mais le Seigneur, il va ranger les choses, etc. Je n'en sais rien. C'est vrai, ça fait partie des choses qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va être un événement spectaculaire. La disparition, ça va être la disparition. Le mari qui va chercher sa femme partout, hein, et vite, il va téléphoner à la gendarmerie. Mais mon brave monsieur, vous savez pas qu'il y a des milliers de gens qui ont disparu? Allumez la télé, vous allez voir. Et c'est là que les gouvernements vont dire, on a la situation en main. Ils n'ont rien en main, mais enfin, il faut bien qu'ils calment la catastrophe. Ça va être un spectacle mondial. Planétaire, la terreur va s'emparer de ceux qui resteront. Ce sera le chaos sur terre. Et on va, certains ont imaginé que certains vont essayer d'expliquer cela à leur avantage, bien sûr. Oh, il valait mieux que tous ces gens disparaissent, c'était des empêcheurs de tourner en rond, etc. Je ne sais pas comment on va essayer d'expliquer ça. Certains pensent même que ce sera l'occasion pour l'Antichrist d'émerger à ce moment-là et d'essayer de prendre le contrôle. Cet événement, une autre question se pose, prendra combien de temps? Ah, vous l'avez lu, on l'a lu tous ensemble, hein, c'est écrit. J'ai pour habitude de dire, vous fatiguez pas, c'est écrit. Oui, cet événement prendra combien de temps? Voilà, le Seigneur Jésus arrive sur les nuées du ciel, et puis tout à coup, c'est le cri de commandement. Là, on voit les choses au ralenti, là. Hein? Cri de commandement, la voix d'un archange, les morts ressuscitent, et nous les vivants, etc. Mais 1 Corinthiens 15, 52 nous dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront. Oh mon pauvre! Combien de fois vous avez cligné des yeux depuis que je suis en train de vous parler, hein? L'œil se nettoie régulièrement, évidemment, n'est-ce pas? En un instant. Cette expression en grec, c'est le mot atomos. Ah, atomos, ça vous dit quelque chose, ça, hein? Ça a donné le mot atome. C'est une particule si petite. À l'époque, ça signifiait si petit qu'on ne peut le couper en deux, que c'est indivisible. Bon, maintenant, on est allé beaucoup plus loin, hein, sur l'atome, voyez-vous. Ça veut dire en une fraction de seconde. Ça veut dire rapide, j'allais dire comme l'éclair. Oui, vous n'avez pas le temps d'imaginer l'éclair que déjà, bon, il est passé. Et si vous deviez y passer, il y a longtemps que vous serez passé. Oui, je dis ça parce que certains ont peur quand ils entendent le tonnerre. Mais ça ne fait rien. Quand vous entendez le tonnerre, c'est que l'éclair a eu lieu déjà depuis un moment. Hein. Vous le savez, la lumière va plus vite que le son. Hein. Oui, mes bien-aimés, ça va être en un éclair... en un clin d'œil, nous est-il dit, c'est bien humain ça, hein, un clin d'œil. Et puis, il est dit, cette expression, n'est-ce pas, en un instant, atomos. Cligner des yeux, c'est le mouvement, paraît-il, le plus rapide dont le corps humain est capable. Ouais, je ne bouge jamais, mais cligner des yeux, ça va encore plus vite. Cet exemple est intéressant. Parce qu'il peut être compris universellement. Les Chinois clignent des yeux, les Japonais, les Vénézuéliens aussi, tout le monde cligne des yeux, tout le monde comprend ce texte. Quelle que soit la façon de prendre ce texte, mes frères, mes sœurs, la chose est claire, tout cela se fera en un éclair, en une fraction de seconde. Amen. Vous n'aurez pas le temps de dire « aïe ». J'ai oublié d'arranger ma chambre. Quand les gens vont venir voir qui c'est qui a disparu, ils vont voir que le lit est défait. Vous n'en préoccupez pas, parce que vous ne savez pas du tout où vous serez, qu'est-ce que vous serez en train de faire quand Jésus va revenir. Parce que, hein, comme le dit la Bible, il y en a qui seront dans les champs, et il y en a qui seront au lit en train de dormir, parce que chez les uns, ce sera la nuit, tandis que chez les autres, c'est le jour. Vous le savez maintenant, hein. À l'époque, on ne savait pas tout cela. Mes frères et sœurs, le Seigneur est bon. Je dis que le Seigneur est bon parce que ça passe très vite, en un clin d'œil, à Thomas. Alors il nous passe le film au ralenti. Vous avez peut-être un engin, hein, vous enregistrez des trucs, et ensuite vous dites, oh là, j'ai pas bien compris, et vous le passez au ralenti, image par image. C'est ce que le Seigneur a fait ici. Il nous passe le film au ralenti. Alors on va essayer de voir ensemble l'image suivante, au ralenti. Parce que tout ce que je vais vous dire, ça se fait en une fraction de seconde, en un éclair. Il est dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais il y a longtemps que c'est fait depuis que je suis en train de le lire, voyez-vous, quand ça va se produire. Dieu ramènera par Jésus, au verset 14, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts sont avec Jésus. C'est ce qui est écrit là, voyez-vous. Quand Jésus reviendra, il ramènera avec lui ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la gloire avec Jésus, mais leur corps, où il est? Il est dans la tombe, où il... Tout dépend, bien sûr, s'ils ont été enterrés. Hein. Ils sont, je dirais, sans leur corps. Voyez-vous? Ils sont dans la perfection spirituelle, les esprits des justes parvenus à la perfection, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, voyez-vous. Et ils vont retrouver leurs corps qui seront ressuscités. Il va y avoir réunion de l'âme et du corps. Il faut bien, puisque nous croyons que les croyants en Christ sont avec le Seigneur Jésus. Autrement dit, pour consoler les chrétiens, Paul est en train de leur dire que les morts en Christ ne seront pas désavantagés, puisqu'ils vont ressusciter d'abord. Ils vont ressusciter d'abord. Donc, le corps aura revêtu l'incorruptibilité à ce moment-là. On ne peut pas rentrer avec ce corps de chair et de sang. Ils ne peuvent hériter du royaume éternel. Moi, je me vois mal dans les rues pavées d'or avec ce corps d'aujourd'hui. Mais heureusement. Alors, le Seigneur a prévu non seulement de sauver notre être intérieur, mais aussi, il a prévu la rédemption du corps, mes frères et sœurs. Non seulement les morts en Christ ne vont pas manquer l'enlèvement, mais nous est-il dit, ça va commencer par eux. Et tout cela à une vitesse fulgurante, en un clin d'œil, n'est-ce pas, atomos. Ces corps ressuscités seront des corps glorifiés, incorruptibles, aptes à entrer dans le royaume de Dieu, car la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Nous savons, d'après les Écritures, que notre corps de résurrection sera semblable au corps ressuscité et glorifié de Jésus. Nous l'avons lu, hein, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce texte se trouve dans Philippiens, chapitre 3, verset 20. Et puis, vous avez l'apôtre Jean qui nous dit dans sa première épître, chapitre 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. » Quand vous aurez rejoint le Seigneur Jésus, vous serez semblables à lui. Et si c'est le moment de la résurrection, vous aurez le même corps que le Seigneur Jésus. On se pose la question, bien sûr, à quoi ressemble le corps de Jésus, puisque nous aurons le même corps que lui. Alors, nous avons certains textes dans l'Écriture qui nous disent qu'après sa résurrection, Jésus a mangé de la nourriture. Vous saviez ça? Il a mangé du poisson. Et quoi encore? Du miel? Du pain? Voyez-vous? Oui. Oui, ça vous paraît étonnant? C'est comment dans le ciel? C'est des petites. Des gens qui flottent comme ça en l'air? Non, ça va être vraiment quelque chose de réel. Voyez-vous? Il nous est dit que les disciples l'ont reconnu, qu'il n'était pas assujetti aux lois normales du temps et de l'espace. Il est arrivé dans la pièce où se trouvaient les disciples, par exemple, alors que les portes étaient fermées, et à une occasion, il a disparu devant les disciples. Enfin, c'est un peu particulier, ces textes, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aurons-nous exactement le même corps que Jésus? Ça semble être ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, une autre question. Qu'arrivera-t-il à ceux qui sont croyants et vivants à ce moment-là? Parce que là, c'est les morts en Christ. Ils vont ressusciter, etc. Ils vont retrouver un corps de résurrection, apte à vivre pour l'éternité dans la gloire. Mais les vivants, parce qu'il y aura des vivants à ce moment-là, nous avons lu dans 1 Corinthiens, nous ne mourrons pas tous. Si Jésus revient maintenant, on ne va pas forcément mourir parce que... Non. Il est dit ensuite, nous les vivants, il y aura les vivants, qui seront restés, à ce moment-là ils seront vivants, nous serons tous ensemble, sous-entendu avec ceux qui viennent de ressusciter, ensemble nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Selon sa promesse, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi dans la maison de mon Père. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Donc les morts en Christ, pas de problème, il ressuscite avec un corps incorruptible. Mais les vivants, il faut qu'ils soient changés. Ils ne restent pas avec ce corps tel qu'il est, ils seront changés. C'est pour ça que la précision, elle est étonnante, elle est là dans l'Écriture. Nous serons changés selon la parole de Dieu. Il n'est pas question de mourir vite, 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 parce que, non, il nous transformera, n'est-ce pas, mes bien-aimés. Ceux qui seront vivants à ce moment-là vont revêtir l'immortalité. Vous remarquerez que Paul fait une distinction entre incorruptibilité et immortalité. Incorruptibilité, c'est pour ceux qui sont déjà passés par la corruption, et immortalité, c'est pour ceux qui ont un corps mortel, mais qui doivent revêtir l'immortalité. Nous serons changés, aptes à vivre, nous aussi, dans notre nouvel environnement. Et ce nouvel environnement, c'est l'éternité avec Jésus dans la gloire. Amen. Nous serons saisis par le Seigneur, ensemble, avec ceux qui viennent de ressusciter. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça me fait penser un petit peu à ces ascenseurs qui descendent au sous-sol. Vous avez déjà, hein, peut-être dans votre propre immeuble, il y a des immeubles qui ont un sous-sol, alors il y a le rez-de-chaussée, et puis si vous voulez aller au sous-sol, parce qu'il y a des trucs, il y a la cave par exemple, ou autre chose, eh bien l'ascenseur descend au sous-sol. Les morts en Christ montent dans l'ascenseur, ensuite ils s'arrêtent au rez-de-chaussée, les vivants en Christ qui viennent d'être transformés montent dans l'ascenseur. Vous voyez, les morts en Christ, premièrement, ensuite nous les vivants, et ensemble, l'ascenseur monte plus haut. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est fantastique, hein? Nous sommes ici, on est en train de rêver là, vous allez rentrer chez vous, vous allez dire, bon, je vais retrouver ma cuisine, il faut que je fasse la soupe ce soir. On est parti là, vraiment, c'est tout à fait extraordinaire. Et pourtant un jour ça va se produire, ça va se produire. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, dans les airs. Quel événement! Quelle révolution sur la terre! Des millions de gens qui vont disparaître, parce que je crois qu'il y a quand même des milliers de gens qui sont convertis sur la planète, sans parler, bien sûr, des... Alors on a pensé aux tombes. Est-ce que les tombes vont s'ouvrir ou est-ce qu'ils traverseront sans que ça s'ouvre? Je vous laisse libre cours à imaginer. Je ne sais pas. Je sais que Jésus, il est sorti de la tombe et quand on a roulé la pierre du tombeau de Jésus, ce n'était pas pour le voir. C'est pour vous dire, voyez, il n'est pas là. Hein. Donc il a traversé la pierre, si je puis dire, hein, la matière. Il n'a pas eu besoin qu'on roule la pierre pour qu'il sorte. Quand on a roulé la pierre, ce n'était pas pour qu'il sorte. C'était pour vous montrer que justement, il n'était plus là. Alors, est-ce qu'on aura besoin que les tombes s'ouvrent pour que les morts ressuscitent? Parce que certains ont imaginé ça. C'est possible. C'est possible. On a vu les tombes comme les bouchons de champagne. Paf, paf, paf. Bon, il y en a qui ont beaucoup d'imagination. Moi, je n'en ai pas trop. Hein. Des millions de personnes qui auront disparu. Bien sûr, je ne sais pas où vous en êtes chacun personnellement. Il faudrait vous prendre un par un et vous dire, alors, et toi, où tu en es alors, hein? Mais c'est vrai, parce que là, nous parlons de deux catégories. Vous avez ceux qui vont rester, qui ne veulent rien savoir de Dieu, et il va se passer des choses sur la terre. Et vous avez ceux qui, au contraire, veulent marcher dans la fidélité avec Jésus. Non pas du bout des lèvres, non pas seulement mentalement, en disant « Oh, j'aime bien ces gens, ils sont gentils, je veux marcher avec eux ». Non, nous parlons ici d'une réelle conversion. Nous parlons de gens qui vont appartenir corps et âme à Jésus-Christ et qui vont se vouer à lui, vont se donner à lui pour le servir, quel que soit le service qu'il va nous demander. Quand je me suis donné à Jésus la première fois, eh bien c'était « Seigneur, tu fais de moi ce que tu veux ». Je n'imaginais pas à cette époque-là ce qu'il allait faire de moi. Hein. Je peux vous le dire tout de suite. Mais est-ce que chacun de nous, nous avons fait la paix avec Dieu? Franchement, hein, certains peut-être vous venez aux réunions depuis quelque temps, je ne sais pas, vous avez été invité cet après-midi à venir à la réunion, et vous dites, mais ces gens-là, ils sont complètement cinglés, de quoi ils parlent, n'est-ce pas, hein, etc. Eh bien oui, est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Est-ce que vous êtes réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ qui est mort, justement, pour pouvoir vous pardonner? Vous ne pouvez pas être pardonné de tous vos péchés parce que vous êtes gentil, parce que vous avez fait du bien à une grand-mère. Non, mes chers amis, vous ne pouvez être pardonné que parce que Jésus a versé son sang sur la croix du calvaire. Autrement dit, il a dit, Père, je donne ma vie pour que cette personne puisse être pardonnée. Juge-moi à moi, condamne-moi à moi, pour que si cette personne veut être sauvée, eh bien tu puisses la pardonner. Alors cet après-midi, vous êtes invité à cela justement. Croire que Jésus-Christ est mort pour vous sur la croix du calvaire, et que si vous vous donnez à lui, si vous repentez de toute votre vie passée, de tous vos péchés, eh bien Dieu va vous pardonner. Sur la base justement du sacrifice de Jésus. Il pourra vous dire, mon enfant, je te pardonne, parce que Jésus a déjà pris tes péchés. Il s'est chargé de tes iniquités, et maintenant par lui tu peux être justifié. Il vous faut vous tourner vers Jésus résolument. Donnez votre vie à Jésus et donnez-la vraiment. Parce que ce sont ceux qui sont en Christ qui vont participer à cet événement, nous le répétons. Pas ceux qui le seront du bout des lèvres, non, ceux qui se seront réellement donnés à Jésus. Quand Jésus va enlever l'Église, ce sont ceux qui ont la nature divine, n'est-ce pas, qui vont pouvoir entrer dans la gloire. S'ils n'ont pas la nature divine, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent dans la gloire? Ils ne supporteront pas. Il y a des gens qui s'imaginent que Dieu prendra, allez, vas-y, on ira tous au paradis. Non, on n'ira pas tous au paradis. Non, mes chers amis, ça ne se passe pas comme ça. Il a fallu que Christ paye de sa vie. Les anges se sont demandés, mais qu'est-ce qui se passe? Comment le Fils de Dieu a-t-il pu descendre sur cette terre? Comment des gens méchants, mécréants, ont pu toucher le Fils de Dieu? Vous imaginez ce que les anges ont pensé quand on a mis les mains sur Jésus pour le faire mourir? Ça a été le scandale dans le ciel. Nous, on ne savait pas trop qui était Jésus, à son époque non plus. Paul dit, s'ils avaient su que c'était le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient pas crucifié. Mais les anges le savaient. Ah, quand ils ont vu qu'on touchait Jésus. Oh, ciel! Je ne sais pas s'il n'y en a pas qui se sont arrêtés de respirer là-haut. Hein. Vous vous rendez compte qui est mort pour vous? C'est ça que je voudrais vous faire remarquer. Ce qu'il a fallu pour que vos péchés soient pardonnés. Alors ce n'est pas à la légère que cet après-midi vous allez dire, oui, mais moi je crois que quand même, si je fais un peu le bien, hein, et si je suis, qu'importe la religion, il n'est pas question de religion, il est question de quelqu'un qui arrive à vous pardonner tous vos péchés, et je n'en connais aucun à part le Seigneur Jésus. Car c'est en lui qu'on a la rédemption, la rémission de tous nos péchés. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans votre décision. Amen. Seigneur, je te prie pour cet auditoire cet après-midi. Tu es vraiment bon, tu as pitié de nous quand tu nous enseignes ainsi. Tu pourrais nous laisser dans l'ignorance. On est tellement têtus bien souvent. Alors merci de nous faire grâce encore cet après-midi. Je te prie pour cet auditoire. Il y a ceux qui sont déjà dans ta main et que personne ne peut ravir de ta main. Mais il y a peut-être des personnes cet après-midi qui ne t'appartiennent pas encore et qui sont là, qui vacillent, elles ne savent pas très bien que décider et elles ont besoin de conviction. Je te prie d'intervenir en leur faveur. Révèle-toi. Révèle-toi à ces personnes comme tu t'es révélé pour nous et que dans leur cœur, ils soient vraiment touchés par ta grâce et qu'ils puissent dire, mais c'est vrai, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a un Dieu au ciel, il y a un Christ qui est mort pour moi sur la croix du calvaire. À lui, je veux donner tout mon cœur et toute ma vie. Alors agis cet après-midi, nous livrons tout entre tes mains, Père, dans le nom de Jésus, mon Sauveur. Amen.